filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, ligne chaotique, murmure clamé d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM 93.9, une émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. Florent Robin au micro et je suis avec le vice-président de l'association, monsieur Ferdinand Fortes.
Bonjour.
Comment vas-tu, Ferdinand ?
Ma foi, très bien.
Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas entendu sur cette antenne. On avait pris quelques petites vacances qui ont duré. Et on en a profité. On travaille cette année sur l'histoire de la République portugaise. Avant d'en parler un tout petit peu et puis de parler de poésie, puisque vous savez qu'on adore parler de poésie à filigrane, une chose quand même importante à noter pour l'actualité portugaise, c'est que le 8 janvier dernier, le Parlement portugais a ratifié une loi qui autorise le mariage homosexuel. Donc on attend que le président de la République signe la loi, mais ça va se faire puisqu'a priori il n'a pas eu recours au Conseil constitutionnel pour l'invalider. Donc dans les prochaines semaines, le Portugal va être encore une fois à la pointe puisqu'il va autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Une affaire à suivre et peut-être très bientôt d'autres bonnes nouvelles de convolage à Casamadis. Et ça fait rire Ferdinand. Donc 2010, c'est aussi l'année du centenaire de la République portugaise. À signaler quand même que la République portugaise est la seule république laïque en Europe, avec la française qui a donc voté il y a très longtemps une loi de séparation des églises et de l'État, et donc une république laïque. Et Casamadis va commémorer pendant toute l'année cet anniversaire, puisque nous allons d'abord annoter tout de suite dans vos agenda, c'est que le 1er mai, nous organiserons un grand dîner républicain à l'occasion de la fête de la liberté et des indépendances des pays africains d'expression portugaise. Il y a aussi, bien sûr, une expo qui sera prévue, qu'on est en train de travailler avec Tito Livio, notre président. L'exposition qui va retracer cette histoire de la République aura lieu le 5 octobre 2010, la date du centenaire de l'implantation de la République portugaise. Et dans cette expo, il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés. Et qui seront abordés aussi dans Filigrane imprécis au fur et à mesure des semaines. Il y aura d'abord les femmes et la République, la séparation des églises et de l'État, et vous savez combien cela me tient à cœur. Le progrès scientifique et culturel, le progrès économique et les droits sociaux, la participation portugaise dans la Première Guerre mondiale, c'est un fait historique qu'on oublie souvent. La participation des républicains portugais dans la guerre civile espagnole, ça c'est aussi un point de vue qu'on oublie tout le temps. Voilà pour l'actualité, j'espère ne rien avoir oublié sur ces principaux thèmes abordés au cours de cette année. Mais l'actualité aussi à Casamadis, c'est une actualité qui dure depuis 6 ans maintenant, c'est le printemps des poètes. Le printemps des poètes, depuis 6 ans, nous faisons un spectacle, nous organisons à Casamadis un spectacle pour aborder plusieurs points différents. Et c'est un petit peu une rétrospective qu'on va faire, Ferdinand, ce matin. De cette histoire de Casamadis dans le printemps des poètes sur Montpellier.
Oui, Florent, c'est ce qu'on va faire. Ça va faire quoi ? Ça va faire maintenant 6 ans, comme tu disais, que Casamadis est impliqué, en tout cas dans le printemps des poètes à Montpellier. 6 ans, dont 4 ans maintenant avec la compagnie Amadis.
Voilà. Qu'on a créé donc. À cause, un petit peu, grâce à ce printemps des poètes. C'est toi qui en as eu l'idée de cette compagnie.
Ouais, ouais, ouais,
t'es venu
absolument.
Me voir à un moment, on dit, mais pourquoi on ferait pas, nous, notre propre compagnie? Et avec Tito, on s'est dit, tiens, banco, vas-y, fonce. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale avec Amalia Rodriguez. Et puis, on fera un petit peu une rétrospective de toutes les facettes qu'on a abordées dans ces printemps des poètes successifs depuis 6 ans. Amalia Rodriguez, Fado Portugues.
Má fortuna mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente, que as magoadas senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse este meio do rogério de vingança.
Amalia Rodriguez, c'est toujours aussi magnifique. Amalia Rodriguez, c'est sur Filigrane Imprécis, l'émission proposée par Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise. Et c'est Filigrane Imprécis. Je suis avec Ferdinand Fortes, le vice-président de l'association, pour évoquer le printemps des poètes. Le printemps des poètes que nous célébrons à Casamadis depuis 6 ans, puisque nous faisons un spectacle, nous proposons un spectacle depuis 6 ans dans le cadre de ce printemps des poètes. Et on va essayer de faire un petit peu de se souvenir que, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a proposé. Donc 6 spectacles. Au départ, la compagnie Amadis n'existait pas encore et nous avions fait appel pour la première année. D'abord, nous avions été voir la mairie pour dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une soirée de poésie portugaise dans le cadre du Printemps des Poètes. Et la mairie, tout de suite, alors qu'on n'était pas du tout connus, nous a dit « Banco, allez-y, proposez-nous quelque chose ». Et donc, on avait été voir la compagnie de l'écharpe blanche avec Suzanne de Morlon. Suzanne de Morlon qui est comédienne et qui est bilingue portugais. Et on lui avait dit, mais pourquoi on ne ferait pas un spectacle de poésie avec vous? Et ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu Teresa Mota aussi qui est intervenue dans le spectacle. Mmh. Et la première année, c'était une espèce de voyage.
C'est un spectacle qui a été mis un peu en espace par Jean-Louis Sol, le metteur en scène,
tout à fait.
De l'écharpe blanche, donc. Et auquel tu as participé d'ailleurs.
Oui, un petit peu de manière impromptue, puisque au départ, moi j'étais simplement chargé de choisir des textes, proposer des textes à la compagnie de l'écharpe blanche. Et c'est Teresa Mota qui, à un moment, m'a entendu lire un texte et m'a dit « mais il faut que tu fasses partie du spectacle ». Et d'un seul coup, je me suis retrouvé habillé en Fernando Pessoa et en train de lire des textes, ce que je n'avais jamais fait. Et que depuis, je fais quand même pas mal et régulièrement. Alors, c'était une grande expérience cette première année parce que je me souviens qu'au départ, pendant les répétitions, rien ne marchait. La technique n'arrivait pas à fonctionner. Moi-même, j'étais mauvais comme un cochon. Et le soir même, quand il y a eu le spectacle, eh bien, tout s'est mis en place et tout a marché parfaitement. Et ce qui était à noter aussi pour cette première, c'est que le public était venu en masse. C'est-à-dire que la salle Saint-Ravi était bondée. On avait compté à peu près 120 personnes. Ouais. Et tu y étais, toi, en tant que spectateur, Ferdinand ?
Oui, j'y étais en tant que spectateur, je découvrais.
Ça, c'était donc pour la première année et un grand souvenir et surtout le souvenir de Teresa Mota, Teresa Mota, c'est quand même une très grande dame du théâtre portugais, et qui me donnait des conseils de lecture, et ça, je ne les ai jamais oubliés. Donc ça, c'était en 2004, en mars 2004, on existait depuis seulement quelques mois à Casamadis, puisque Casamadis s'est créé en décembre 2003.
Oui, absolument.
Et donc, en mars 2004, on avait 3 mois, c'était un tout bébé tout rose.
Oui.
Et ça, c'était la première année. Et fort du succès de la première année, on est revenu à la charge la seconde année avec un autre spectacle. Et on avait trouvé un biais, puisqu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on connaît de la poésie portugaise pour un Français ? C'est Fernando Pessoa. Mmh. Et donc, on avait décidé de faire un spectacle autour de Fernando Pessoa et surtout autour des futuristes portugais, puisque Fernando Pessoa était très impliqué dans le mouvement futuriste. Et on a fait des recherches avec le président, et on est tombé sur un texte qui est très très célèbre au Portugal. C'est le manifeste futuriste d'Almada Negreiros. Et on s'est aperçu que ce manifeste futuriste, qui est très drôle, il n'était pas traduit. Il n'avait jamais été traduit en français. Et avec Tito, on s'est dit, on va le faire. On va le faire. On a travaillé pendant plusieurs semaines en s'engueulant comme des chiffonniers, parce que c'est toujours très difficile de traduire un texte comme ça. Et après, on a été voir la compagnie Chagall sans M, et avec Claire Engel à la tête de la compagnie, et on lui a dit, est-ce que tu veux faire un spectacle avec nous autour de Pessoa et des futuristes ? Et il se trouve qu'elle avait déjà travaillé sur Fernando Pessoa pour un précédent spectacle. Mmh. Et donc, on a repris ses notes, on a refait un découpage de texte et on lui a proposé ce manifeste futuriste, le manifeste dit anti-Dantes. Et elle a trouvé le texte formidable et on a décidé d'en faire un enregistrement avec plusieurs comédiens de la compagnie.
Je me souviens très bien.
Et cet enregistrement, on l'a conservé. Et donc, c'est 12 minutes. Et vous allez voir, il est d'une férocité, ce Almada Negreiros. Tout le monde y passe. Et surtout, ce Dantes. Alors, Dantes, c'était l'auteur consacré au début du siècle. C'était l'auteur bourgeois par excellence. Et donc, c'est tout ce que détestaient les futuristes. Les futuristes avec Almada Negreiros, Fernando Pessoa, Mario de Sacarneiro. Si on oublie toujours Mario de Sacarneiro, mais il n'y aurait pas Fernando Pessoa sans Mario de Sacarneiro. On va écouter tout de suite, si tu veux bien, Ferdinand.
Ah ben bon, je veux bien.
Ce manifeste anti-Dantes, donc avec une traduction de Tito et puis de votre serviteur. Et c'est donc Claire Engel qui a dirigé cet enregistrement.
Basta, poum, basta. Une génération qui consent à se laisser représenter par un Dantas est une génération qui ne l'a jamais été. C'est un refuge d'indigents et d'aveugles. C'est une bande de charlatans et de vendus qui ne peut partir qu'en dessous de zéro.
À bas la génération.
À mort.
À mort, Dantas.
À mort.
À mort.
Pim.
Pim.
Une génération avec un Dantas pour cavalier est un âne impotent. Une génération avec un Dantas au gouvernail est un canot à sec. Dantas est un Romanichel.
Dantas est encore moins qu'un Romanichel.
Il se peut qu'un Dantas sache la grammaire, sache la syntaxe, sache la médecine, sache préparer des soupers de cardinaux. Il se peut qu'il sache tout, sauf écrire, et c'est la seule chose qu'il fait.
Dantas pige la poésie à un point tel qu'il fait même des sonnets avec des jarretières de duchesse.
Dantas est un petit malin.
Dantas s'habille mal. Dantas porte des caleçons longs en laine. Dantas spécule et inocule les concubins.
Dantas est... Dantas. Dantas est...
Julio.
À mort, Dantas.
À mort.
Pim. Dantas a commis une religieuse portugais. Elle aurait aussi bien pu être Sœur Inès ou la Reine Morte, ou Léonore Télès, ou le Grand Maître Davis, ou Donna Constanza, ou le Radeau de la Méduse, ou la Femme à Barbe.
Et Dantas a acheté une claque. Et Dantas a eu droit aux applaudissements. Et Dantas a dit merci. Dantas est un sacré Romain Michel.
Pas besoin de se mettre en plein centre du Rossio pour devenir pantomime. Il suffit d'être pantomime.
Pas besoin de se mettre un masque pour devenir bandit de grand chemin. Il suffit d'écrire comme Dantas. Il suffit de n'avoir pas de scrupules, ni moraux, ni artistiques, ni humains.
Il suffit de suivre les modes, les politiques et les opinions. Il suffit d'arborer son fameux petit sourire. Il suffit d'être très délicat, de porter un melon et de faire des yeux doux.
Il suffit d'être un Judas. Il suffit d'être Dantas. À mort, Dantas.
À mort, Dantas.
À mort.
À mort.
Bim.
À mort, Dantas. À mort, à mort. Bim.
Dantas est né pour apporter la preuve qu'il ne suffit pas d'écrire pour savoir écrire. Dantas est un automate qui dégoise un discours connu d'avance, à condition d'y mettre le prix. Dantas, en matière de génie, n'arrive jamais à inventer la poudre et son talent, c'est du pim-pam-poum. Dantas tout nu est une horreur. Dantas pue de la gueule. À mort, Dantas. À mort.
À mort, Dantas. À
Pim.
Mort.
Dantas est la risée des consciences.
Si Dantas est portugais, je veux être espagnol. Dantas est la honte de l'intellectualité portugaise. Dantas est le seuil ultime de la décadence mentale. Et il en reste encore qui affirme admirer Dantas sans rougir.
Et il en reste encore qui lui serre la main. Et qui lui fasse sa lessive.
Et qui ait pitié de Dantas. Et il en reste encore qui doute que Dantas ne vaut rien, qu'il ne sait rien, qu'il n'est même pas intelligent, ni décent, ni zéro.
Vous ne savez pas ce que c'est la sœur Mariana du Dantas? Je vais vous le raconter. Pour commencer, par des affiches, des interviews et autres préparatifs auxquels nous sommes étrangers, j'ai cru qu'il s'agissait de la sœur Mariana Alcufurado, la religieuse portugaise, pseudo-auteur de ces lettres françaises que deux illustres messieurs de chez nous n'ont eu de cesse de massacrer en portugais. Quand le rideau s'est levé, cela ne m'a pas éclairci davantage, car il faisait nuit noire. Ce n'est qu'au milieu du premier acte que j'ai compris que c'était en fait l'aurore, car l'évêque de Béja a dit qu'il avait attendu le lever du soleil. Mariana descend un escalier très étroit, mais elle ne vient pas seule. Avec elle, elle emmène Chamille, que je n'ai pas réussi à voir. J'ai juste entendu une voix très connue ici, au Café Brasileira. Par la suite, c'est l'évêque de Béja qui révèle que Chamilly portait un caleçon rouge. Mariana et Chamilly sont seuls sur scène. L'obscurité nous fait parfaitement comprendre qu'ils ont perpétré des indécences dans la chambre. Après, pleinement satisfait, Chamilly salue et saute par la fenêtre aux grandes dames de la bonne sœur éplorée.
Aujourd'hui encore, les touristes peuvent observer les grilles défoncées de la fenêtre du cinquième étage du couvent de Béja, Rua de Touro, par où s'est enfui, dit-on, le célèbre capitaine de cavalerie à Paris et dentiste à Lisbonne.
Mariana, qui est une hystérique, commence à pleurer éperdument dans les bras de sa confidente et excellente porteuse de chandelles, sœur Inès. Plusieurs sœurs, Mariana, toutes semblables, des chandelles allumées à la main, descendent l'escalier.
Sauf une, qui porte des lunettes et une canne, et encore toute voûtée, ce qui veut dire qu'elle est abbesse. Elle aurait été une excellente personnification des sorcières de Goya si, quand elle parlait, elle n'avait cette petite voix si fraîche et enchanteresse de Dame Félicité, ma voisine.
Distinguant les deux silhouettes, elle questionne d'une voix compassée, cadencée, austère, comme une horloge qui a besoin d'être remontée. Qui est là, les chandelles éteintes?
C'est le vent,
répondent les pauvres innocentes, pétrifiées par la terreur. Et l'abbesse, qui n'est vieille que par ses lunettes, sa canne et sa démarche voûtée, demande que l'on fasse sonner, et c'en est un crève-cœur de l'entendre ainsi débilité. Elles se dirigent toutes vers le chœur, mais c'est alors que soudain l'on frappe à la grille, sans s'annoncer ni s'essuyer les chaussures. L'évêque de Béja, qui, quand il était jeune, a eu fait des coquineries avec une marchande de chocolat, monte l'escalier et entre dans le salon. Aujourd'hui parfaitement amendé, il révèle à l'abbesse qu'il sait, par des lettres, que des hommes vont aux femmes du couvent, et qu'il y a peu encore, il en avait vu un de la cavalerie sautant par une fenêtre. L'abbesse dit qu'effectivement, depuis déjà un certain temps, elle avait remarqué la disparition de Poule. La pauvre, innocente à point telle que, pendant ses 80 années d'existence, elle n'a pas réussi à comprendre la raison qu'a l'humanité de se diviser entre hommes et femmes. Ce n'est qu'après moult efforts de la part de l'évêque qu'elle constatait l'audace commise et réclamait la présence des deux sœurs aux chandelles éteintes, entrevues il y a quelques instants. À ce moment, cette pièce policière prend un certain intérêt, car l'évêque alors ressemble soit à un policier d'investigation déguisé en évêque, soit à un évêque, avec le manque de délicatesse d'un policier d'investigation. Et tellement perspicace qu'il découvre en moins de 30 secondes ce que le public sait déjà pertinemment, Mariana a couché avec Noël.
Le pire, c'est que Mariana, excédée par les indiscrétions de l'évêque, se met à braire comme si elle se foutait des conséquences. Elle est même passée tout près de créer un précédent par une paire de coups de poing sur la couronne de l'évêque. Cette audace, cette insolence et cette détermination gouailleuse dépassa toutes les espérances. On entend soudain un cornet à piston jouer une marche militaire. Mariana, éprouvant par le pas des chevaux toute l'âme de son chéri, court tel un moineau en cage jusqu'au barreau de la fenêtre, criant comme une perdue pour son Noël. Elle crie, elle siffle, elle toupille, elle piaille et se déchire et se blesse et tombe à la renverse, provoquant l'accident que le public voyait venir depuis un moment déjà. Le rideau tombe à son tour et le spectateur tombe également du haut de sa patience et se lance dans une de ces huées si énormes et si monumentales que le lendemain, l'ensemble des journaux de Lisbonne ont été unanimes pour saluer ce succès théâtral du Dantas.
L'unique consolation que les spectateurs ont eue, ce fut la certitude qu'il ne s'agissait pas de la sœur Alcuforado, mais bien d'une merdariana al dantas culfurado, en proie à des vapeurs et des fureurs utérines.
Si Monsieur Dantas continue d'écrire ainsi, il gagnera beaucoup avec son alcufurado. Il finira bien par mériter une statue en argent ciselée par un orfèvre de Porto, une exposition de maquettes pour son monument érigé par souscription nationale du journal Seculo en faveur des blessés de guerre et la place Camoès débaptisée en place Julio Dantas et des commémorations municipales pour chacun de ses anniversaires et des savonnettes se nommeront Julio Dantas et du dentifrice et du cirage Dantas pour les bottes et les chasses d'eau Dantas et Dantas, 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 Dantas et de la limonade Dantas Magnésium.
Dantas, sachez-le, si un jour il y a une justice au Portugal, tout le monde saura que le véritable auteur des Lusiades est Dantas qui, dans un geste mémorable de modestie, a consenti à céder sa gloire à son pseudonyme Camoes.
Dantas, sachez-le, si tout le monde était comme moi, il y aurait un tel arsenal de bras d'honneur que 2 siècles ne suffiraient pas à les épuiser. Mais croyez-vous qu'en cela se résume la littérature portugaise? Non, 1000 fois non.
Nous avons notre Chanza, qui a mis en rime la bataille d'Aljubarrota, qui, dès lors, cessa d'être une défaite des Castillans pour devenir la défaite de Chanza.
Et les pédantismes de grand-mère de Vasco Mendonca Alves, et les infélicités de Ramada
Couto. Et toutes les maquettes réalisées pour le marquis de Pombes.
De Urbano Rodriguez,
et celle à Paris pour Camoes.
Et les traductions réservées aux hommes de l'illustrissime et excellentissime monsieur Melo Barreto et le frère Madame Mocho,
les Camacho, les Cunha, les Carnero, les Barros, les Silva,
les gens de la brasserie Agrianuro de Porto, les abrutis de Coimbra et la stupidité d'Oldemiro Serra et monsieur le docteur José de Figueiredo, amateur de musée, et ah, oh, les sous-alpines, et les dames de Casillas et les menus de chez Alfredo Bizarre. Et
tous les journaux, les peintres des beaux-arts, et tous les arts graves, que je n'aime pas,
et tous ceux qui sont politiques et artistes, et les expositions annuelles des beaux-arts,
les Albuquerque, les Sosa, et tous les dantas qu'il peut y avoir. Et les convictions urgentes de Homem Christophe.
Et les concerts du Blanchi
et les convictions tirées à 4 épingles de Homem Christophe.
À l'éveil des arts et à tout. Et l'ensemble de l'art au Portugal. Et tout. Tout à cause du Dantas.
Bim.
Le Portugal, grâce à ces messieurs, a réussi la performance d'être le pays le plus attardé de l'Europe et du monde entier. Le pays le plus sauvage de toutes les Afriques. L'exil des déportés et des indifférents. L'Afrique recluse des Européens. La poubelle des désavantages et des surplus. Le Portugal tout entier, si tant est que son aveuglement n'est pas incurable, devra un jour ouvrir les yeux. Alors il criera avec moi, à mon côté, le besoin pour le Portugal d'être quelque chose de propre. À mort, Dantas!
À mort, Dantas!
À mort!
À mort!
Mort!
Pim!
Pim!
Pim! José de Almada Negreiros, poète d'Orfeo, futuriste, et tout. 1915.
Voilà ce manifeste anti-Dantas. Moi, je m'en lasse pas personnellement. Ferdinand, qu'est-ce que t'en penses ?
Oh, mais écoute, j'ai écouté plusieurs fois et c'est toujours pareil. Hein. C'est bien. C'est très bien. J'aime bien. je sais pas quoi dire d'autre. C'est...
1915, Almada Negreiros. Almada Negreiros, donc on avait cité pendant ce printemps des poètes en 2005. Oui, c'était avec la compagnie Chagall sans âme, avec Claire Engel. Et on a continué le printemps des poètes tous les ans. Et en 2006, c'est ça ? Oui, 2006, voilà. Eh bien, tu as créé la compagnie Amadis.
Oui. En 2006, donc, je vous ai fait la proposition de mettre en place une compagnie de théâtre, vu que je suis moi-même comédien et que la mise en scène, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en tout cas que j'aime beaucoup faire. Et que j'avais aussi les connaissances au niveau des comédiens et puis des metteurs, des comédiens, des comédiennes et tout ça pour pouvoir mettre en place des spectacles, pas seulement pour le Printemps des Poètes d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait la proposition, vous l'avez bien accepté, et puis en 2006, on est parti accompagner Amadis Théâtre avec une première représentation au Printemps des Poètes.
Et c'est là que je t'ai proposé un auteur que j'étais en train de découvrir et d'adorer et d'aduler, qui est, je crois, mon poète préféré.
Que je ne connaissais pas et puis que quand finalement j'aime ça. Beaucoup aussi.
Et j'aime tellement ce poète qu'on avait décidé de faire une année Georges de Sénat, puisque c'est de Georges de Sénat qu'il s'agit. Et on a fait une expo consacrée à l'œuvre de Georges de Sénat, à la vie de Georges de Sénat. Et on est entré en contact avec sa veuve, qui vit aux États-Unis et qui nous a transmis des documents tout à fait inédits concernant son époux. Et c'était la première fois qu'il y avait une expo Georges de Sénat, avec donc ces documents inédits. Et les textes que je t'ai proposés, tu en as fait une sélection et ça a donné donc Georges de Sénat ou le maître d'indiscipline, donc en 2006. Le temps passe, c'est vrai, ça fait déjà...
En 2006, un spectacle donc, j'avais mis en place avec, à l'époque, des élèves du Conservatoire d'art dramatique de Montpellier. Damien Buestel, Julie Juré... Juliette Pétavin, Bélène Kubila, voilà. Donc, et puis ceux que j'oublie, hein, excusez-moi.
Ça fait déjà quelques années. Eh bien, je te propose que tu nous lises un texte que tu avais particulièrement adoré de Georges de Sénat.
De Georges de Sénat, Tombeau désiré.
Le Tombeau désiré, je t'ai même préparé la page. Tu le connais presque par cœur.
Presque, oui. C'est au milieu de l'obscur sentier d'un faubourg qu'il faudra m'enterrer, et que mon tombeau soit l'endroit reculé propice aux rencontres. Que le garçon, seul et désespéré, vienne en ses errances s'y masturber. Que l'amoureux sans chambre, ou infligé à sa belle les derniers outrages, l'amène et la force et puis la viole sur ma tombe. Que l'inverti vienne à côté s'agenouiller devant celui-là qui monnaie son sperme ou baisse son pantalon pour s'offrir, ses mains prenant appui sur cette pierre. Que des bandes de voyous y entraînent la jeune fille qu'ils ont kidnappée et la laissent prostrée et tout en sang. Que les prostituées, vulgaires, pouilleuses, constellent la dalle d'humeur glaireuse après s'être vendues à de pauvres vieillards. Que les enfants qui viennent dans leur jeu s'amuser près de moi, sans marcher dans les coins sur les étrons plus puants que la mort, qui sont l'humaine trace des sentiers, y découvrent, sans vraiment les comprendre, les taches desséchées de ce qui fut violence ou bien encore désir, ou ce que l'on nomme vice. Qu'en riant, ils les lavent de leur brûlante pisse, chointant sur la pierre qui me recouvrira. Et reviennent un jour pour les recommencer. C'était le tombeau désiré, donc Georges de Sénat.
On voit à peu près avec ce texte bien l'écriture, la patte de Georges de Sénat. Georges de Sénat n'était pas que poète, il était aussi romancier, il était nouvelliste, il était essayiste. Et il y a un auteur qui revient constamment quand même dans la poésie et dans l'imaginaire portugais, c'est Camões. Camões qui est la grande référence, le grand génie national portugais. Et qui était vraiment l'un des auteurs de chevet de Georges de Sénat. Il a même écrit un poème sur Camões, et c'est Camões s'adresse à ses contemporains. Vous pourrez tout me voler, idées, mots, images, et aussi métaphores, thèmes, motifs, symboles, et le douloureux privilège d'avoir dû le premier enfanter une langue nouvelle, dans l'entendement des autres, dans le courage de combattre, de penser, de pénétrer dans des retraites d'amour pour lesquelles vous êtes châtrés. Et vous pourrez ensuite ne pas me citer, me supprimer, m'ignorer, et même acclamer d'autres larrons plus heureux. Peu importe, car le châtiment sera terrible. Non seulement quand vos petits-neveux ne sauront plus qui vous êtes, ils devront me connaître mieux encore que vous ne feigniez de ne pas me connaître. Mais tout ce que vous pillez si laborieusement reviendra à mon nom. Et tout sera vraiment mien, considéré comme mien, comptabilisé comme mien, même ces petites choses misérables que, tout seul, sans les avoir usurpées, vous pourriez avoir faites. Vous n'aurez rien, absolument rien, pas même vos ossements, car on ira chercher l'un de vos squelettes pour le faire passer pour mien, afin que d'autres larrons, semblables à vous, se mettent à genoux pour déposer des fleurs sur mon tombeau. C'est beau quand même.
Oui, c'est du Georges de Sénat.
C'était typique du Georges de Sénat.
En tout cas, ces textes, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils étaient, engagés, je trouve, et très. Il y avait toujours. Dénonçait toujours quelque chose. Il était. En tout cas, je sais qu'il était complètement contre le régime salazariste, qu'il a quitté le Portugal pour ça et qu'il s'est installé au Brésil
tout d'abord,
et puis il a quitté le Brésil parce que la dictature était aussi arrivée au Brésil, et bon, voilà, c'est un gars qui me plaît bien.
Et voilà. On oublie souvent, c'est qu'il a écrit un roman tout à fait magnifique, inachevé mais magnifique, qui s'appelle Signe de feu. Et Signe de feu, ça parle des réfugiés espagnols au Portugal pendant la guerre d'Espagne, et de l'implication en fait de certains Portugais dans cette république en guerre en Espagne, et en même temps du fait que le régime salazariste en a profité pour durcir son régime. Il a profité donc de cette guerre d'Espagne pour durcir et imposer vraiment sa dictature. Donc ça, c'est un roman tout à fait superbe et truculent, comme d'habitude, qui va avec plein de sexe, de bruit, de fureur. Donc un roman magnifique dont je conseille la lecture.
Voilà. Et donc là maintenant, si j'ai hâte, parce que j'ai envie de le réécouter. Donc tu nous as ramené à une bande son.
Oui, on va y venir. C'est la première collaboration de la compagnie Casamadis avec Alain Ferral.
Oui.
Alain Ferral, qui est musicien, compositeur, qui a tellement de talent que ça serait trop long à les énumérer. Et donc, tu as été le voir pour lui demander de faire des musiques originales pour ton spectacle.
Ouais, pour le premier spectacle. Donc, tout de suite, il a accepté. Et puis, on continue à travailler ensemble, notamment là pour Fatum, qui est le spectacle donc, qui aura lieu le 18 mars prochain. Printemps des Poètes, il travaille là. Pour une fois, il sera sur scène avec un hautbois et il jouera en direct.
Voilà. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, c'était une musique qu'il avait composée donc pour le Georges
voilà,
de Sénat.
Voilà, donc c'est une musique qu'il avait composée donc, avec un texte donc, de Georges de Sénat qui est dit par Damien Buestel. Et à l'époque, donc il y avait Solange donc, qui dansait sur la musique, donc, sur scène, et puis Alain au piano. Voilà.
Douce perspicacité des sens. Vision plus tactile que des doigts impatients, toujours dans les ténèbres, se heurtant à des craintes que seul l'odorat entend distinctement. sexe audible, corps répété, goût salé sur des courbes sans secret, auxquelles d'autres acres et secrètes, joyeux, paisible, fin, âpre, grincement, se mêlent tache après tache, lentement, parfum turgescent, doux, tiède, avide d'une main glacée et tremblante. Qui coule lestement sur les corps tendus, si peu réels. Oh, douce perspicacité des sens.
Filigrane apprécie sur Divergence FM, l'émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. On essaye de faire une petite rétrospective des participations de Casamadis, des participations successives depuis 2004 au Printemps des Poètes. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était donc une musique de Alain Ferral, « Douce perspicacité des sens », un poème de Georges de Senna. Georges de Senna, qui donc a été notre poète fétiche qu'on a essayé de faire découvrir en 2006, avec la compagnie Amadis. Et en 2007, on était de retour. Et Ferdinand, là, c'est un autre poète que j'avais essayé de te faire découvrir, je t'avais proposé, c'est Alberto. Et quand je t'ai proposé des textes de Alberto, tu les as lus et qu'est-ce que tu en as pensé ?
Difficile.
Ça n'a pas été aussi immédiat que... Que Georges de Senna.
Non, ça n'a pas été aussi immédiat parce que c'était un peu noir, un peu un humour assez particulier, encore s'il y avait de l'humour.
C'est donc, sombre.
C'était sombre, oui, c'était sombre et donc pas évident à mettre en place un truc à partir de textes exclusivement d'Alberto.
Mais donc, tu as relevé le challenge.
Oui, on est arrivé à faire quelque chose. À l'époque, c'était avec Anne-Juliette Vassor et Jonathan Pérez. Et oui, ça a donné quelque chose de finalement qui a été bien reçu par le public le soir même. Mais c'est vrai que c'était un peu dur.
Et c'est vrai que cette année-là, on avait décidé aussi de faire une année Alberto à Casamadis et on avait fait une exposition consacrée au poète. Et donc, on avait eu des documents, entre autres le directeur de l'Escampette, qui l'avait très bien connu, nous a envoyé des photos inédites de Alberto. On a été aussi en communication avec la maison Fernando Pessoa à Lisbonne, qui nous a donné des enregistrements avec la voix d'Alberto. Et donc, tout un tas d'activités autour de ce poète. On avait fait plusieurs émissions de Filigrane imprécis consacrées à Alberto. Et ce que je vous propose, c'est de... Ben je vais vous lire un petit extrait d'Alberto, un texte que je lis régulièrement parce que c'est, à mon avis, c'est le plus abouti de Alberto, avec peut-être la mort de Rimbaud. Ce texte s'appelle Varec. Alors Varec, ça fait bien sûr référence à une chose qui revient constamment dans la poésie portugaise, c'est les odes maritimes. Les odes maritimes, même Fernando Pessoa, alias Alvaro de Campos, ça fait une ode maritime. Et tout ça, c'est en référence, bien sûr, au grand Camões. On revient toujours à Camões. Camões qui avait écrit les Lusíadas. Les Lusiades qui, dans la littérature et dans l'imaginaire portugais, va avoir une importance colossale, qui est connue dans le monde entier, à part en France. Et très curieusement, il est très peu connu et reconnu, Camões, en France. C'est un poète du XVIe siècle. Et au XVIe siècle, il y a quand même quelques mastodontes qui arrivent dans la littérature. En Angleterre, vous avez Shakespeare. En Espagne, vous avez Cervantes. En France, vous avez Rabelais. Et au Portugal, ben, vous avez Camões. Et les Lusiades, c'est extrêmement important puisque c'est une nouveauté, puisque c'est une épopée. Et normalement, une épopée a un héros. Pour l'Énéide, vous avez Énée, pour l'Odyssée, c'est Ulysse. Et là, dans les Lusiades, le héros, c'est le peuple portugais. Et donc, ça a peuplé l'imaginaire de tous les poètes et, qui ont succédé, qui font toujours référence. Et donc, Varec de Alberto, c'est un peu une variation sur une ode maritime. Donc, je vais vous lire, c'est un long poème, donc je ne vais pas tout vous lire, même si j'en aurais envie. Donc, Varec. Ici, je ne te fais que les simples relations de ces navires perdus dans l'écho du temps, dont les noms, les marchandises et le lucre transitent encore aujourd'hui de solitude en solitude. Il voulait être marin, courir le monde en suivant les routes des oiseaux côtiers, les mains ouvertes, les lèvres écorchées par la vision des voyages. Il aurait emporté dans ses bagages la chanson somnolente des vents et l'attente sans fin des pays effrayés par les eaux. Il s'est penché de l'autre côté du miroir où le corps devient diaphane jusqu'aux os. La nuit lui a rendu un autre corps qui navigue dans l'abandon d'un secret retour. Ensuite, il a conservé la passion des jours lointains dans le sac de toile et du fond nostalgique du miroir, les yeux de la mer ont soudain surgi. Des bulots grandissaient sur ses paupières, des algues fines, des méduses lumineuses se mouvaient à portée de voix et sa poitrine était l'immense plage où les légendes et les chroniques avaient oublié squelettes énigmatiques, insectes et métaux précieux. Un filet de semences nouait son cœur envahi par le varech. Son corps se séparait de l'ombre millénaire, s'immobilisait dans le sommeil antique de la terre, descendait jusqu'à l'oubli de tout. Naviguait dans la rumeur des eaux oxydées, s'accrochait à la racine des épées, allait de mât en mât, scrutait l'insomnie, jetait des feux acides sur le visage incertain d'une mer. C'était un navire, sur lequel les hommes revenaient comme un sanglot avec les nostalgies d'îles. Ils s'enivraient dans la crainte de ne jamais arriver, couchés sur les planches crasseuses de la cale, avec le rut de la nuit adhérant aux membres humides. Ils espéraient apercevoir une terre où ils pourraient enfin se ravitailler en vivres et en eau fraîche. Et qui sait si une lettre n'aurait pas suffi pour étancher les soifs et les faims de leur cœur intranquille. Voilà, c'est un petit extrait, le poème est beaucoup plus long,
oui.
De Alberto.
Alberto.
Alors Alberto, c'était en 2007.
Alberto, c'était en 2007.
Et
le titre, c'était Alberto, voilà. Ou la révolte sans espoir.
Ce qui, voilà, donne bien un petit peu la tonalité, la
mais,
tonalité de.
Mais
de,
bien sûr,
de
bah après on l'a travaillé un peu dans une autre direction quand même. On n'a pas fait que c'était pas non plus triste et sombre comme spectacle. Au contraire, hein, au contraire. Et donc oui, ce soir-là, il y avait sur scène Jonathan Pérez, Anne-Juliette Vassor, Anaïs Lévesque, et puis aussi donc on avait fait venir aussi un mime.
Oui, avait, c'est vrai.
Voilà. Donc, qui avait fait quelque chose d'intéressant, un joli travail. Parce que, voilà, j'essaie toujours, moi, tous les ans, de joindre un artiste donc, au projet. Et il a un peu carte blanche. Donc, il a les textes, il a l'univers, il a la direction dans laquelle on veut aller. Et il propose quelque chose, et ça sera le cas cette année avec Sarah Jalet, quoi, pour Fadoum, qui est une danseuse portugaise, contemporaine portugaise, qui fait de la biodance. Voilà, donc.
On va y revenir à Fadoum, parce que Fadoum, ça sera cette année. Et l'année dernière, quand on a vu le sujet du Printemps des Poètes, c'était l'humour dans la poésie, on s'est trouvé bien embêté. Parce que l'humour et la poésie portugaise, au départ, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on va faire de cette chose ?» Parce que ce n'est pas une poésie forcément rigolote. C'est une poésie profonde, mais pas forcément rigolarde.
Ou alors rire jaune, alors.
Hein. Rire jaune, rire sombre. Et en fait, on a trouvé le biais. Moi, je t'avais proposé à l'époque, plutôt parler d'ironie, dans la poésie portugaise, ça me semblait correspondre davantage à l'esprit de la poésie portugaise. Et ça a donné un spectacle qu'on a baptisé Lusironie.
L'ironie lusophone.
Voilà.
Voilà, Lusironie, donc, qui était un patchwork. Hein, parce que jusqu'à présent, on avait un spectacle autour de textes du même poème, du même poète, pardon. Et par contre, Lusironie, c'était la première fois où on partait, on montait un spectacle, un patchwork de poètes, un patchwork de textes comme ça, où il y avait plusieurs poètes, plusieurs textes. parce qu'il fallait trouver l'ironie là-dedans.
Mais il y avait du Alexandre O'Neill, si je me souviens bien. Il y avait du Césarini avec un texte épatant de Césarini,
Il y avait aussi du Georges de Sénat.
Il y avait du Georges de Sénat, bien sûr. Il y avait tout un petit patchwork autour de cette ironie portugaise. On va faire une petite pause musicale avec. On va retrouver Amalia Rodriguez. Et Amalia Rodriguez, ça nous permettra après de parler de Fatoum, le prochain spectacle. Il faudra sortir vos agendas pour ne pas oublier. Amalia Rodriguez. Amalia Rodriguez encore et toujours sur Filigrane Imprécis. Amalia Rodriguez, ça semblait s'imposer ce matin, puisque on va parler maintenant, après avoir fait un petit peu cette rétrospective des participations successives de Casa Amadis dans le Printemps des Poètes pour la mairie de Montpellier. Eh bien, on arrive à 2010. 2010, le spectacle qui est à venir donc le 18 mars à 21h à l'espace, à la salle Saint-Ravi. Comme d'habitude, comme tous les ans d'ailleurs. Donc là, on ne fait pas la clôture du Printemps des Poètes pour la première fois, puisque la date ne semblait pas me convenir, puisque c'était le jour de la clôture, c'est un jour d'élection. Donc les élections et la poésie, ça ne va pas très bien ensemble, voilà, à mon sens. Et donc cette année, quand on a vu le sujet proposé, le sujet national proposé pour le Printemps des Poètes, à savoir « Couleur femme », eh bien ça t'a branché tout de suite, Ferdinand.
Oui, ça m'a branché tout de suite, non pas parce que ça parle de la femme, mais parce que tout simplement, jusqu'à présent, on n'avait pas travaillé, enfin moi j'avais pas travaillé sur des poétesses, donc des poétesses, j'aime pas ce mot, mais en même temps...
Ça sonne un peu bizarre.
Ouais, donc je vais dire des poètes. Hein. Donc sur des poètes femmes et donc lusophones et pour moi c'était l'occasion, je me suis dit bah, tiens c'est l'occasion de pouvoir faire ça et de pouvoir travailler exclusivement autour de textes féminins, voilà, de poètes, de poétesses, je suis obligé de le dire.
Voilà, comment le dire autrement,
ça va être plus simple, donc de poétesses portugaises et donc voilà, on a fait quelques recherches, on a regardé un peu à la bibliothèque et puis voilà, on a trouvé des textes donc qui très vite la sélection a été faite hein, pour moi en tout cas.
Je t'ai proposé comme d'habitude quelques textes et puis après tu m'as demandé est-ce qu'on n'aurait pas des poétesses lusophones mais qui ne soient pas que portugaises.
Ouais. Donc on a Amalia Rodriguez et puis il y aura des textes d'Amalia Rodriguez, des textes de Louise Neto Jorge, des textes de
Flor Bella
Spanca et puis de Correa, Naomi Correa, enfin des poétesses d'Afrique lusophone. Voilà, c'est pareil, là encore on est un peu dans le patchwork où on ramène plusieurs textes différents, de différents poètes, mais pour finalement donner quelque chose de sympathique autour de l'écriture féminine lusophone.
Alors pourquoi le spectacle va s'appeler Fatoum et pourquoi Fatoum?
Le spectacle va s'appeler Fatoum parce que je veux travailler autour, donc il y aura l'univers fado un peu qui va tourner autour des textes, c'est-à-dire des musiques d'Amalia Rodriguez, qui est un peu la diva du fado.
C'est la papesse.
La papesse du fado au Portugal. Et puis il y a aussi Amélia Mouche que j'aime beaucoup, j'ai découvert il y a pas longtemps, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, que ça tourne aussi un peu autour du fado, mais revisité, fado bien revisité
oui.
Donc intéressant d'ailleurs, des musiques d'Amélia Mouche sur lesquelles va danser Sara Jaleco donc le soir du spectacle. Et voilà le titre de Fatoum, parce que Fatoum veut dire en latin destin, et que ces femmes, que ce soit Amalia Rodriguez, Flor Bella Spanca, surtout Flor Bella Spanca, et Louisa Neto Jorge, et les deux autres auteurs, les deux autres poétesses africaines, donc, d'Afrique lusophone, c'est des poétesses de São Tomé Principe et du Mozambique.
Ça va faire plaisir au consul de São Tomé, ça.
Voilà, que j'ai choisi, donc, qui vont, ont eu un destin, donc, Natalia Correa, qui est de Mozambique, a eu un destin assez particulier, assez fort, assez donc d'où le titre Fatoum. Et puis Fatoum aussi, le mot fado vient du latin Fatoum, donc je trouvais que ça se rejoignait bien. Et voilà pourquoi ce titre, quoi, Fatoum.
Et donc sur scène, il y aura donc une comédienne.
Sur scène, donc il y aura Marie-Audrey Simoneau. Et puis Sara Jaleco, qui aura une petite performance de danse contemporaine, biodance, et qui dira aussi des textes en portugais. Et puis il y aura Alain Ferral en musique. Voilà,
le complice depuis de nombreuses années de la compagnie Amadis. Ouais. Bah, voilà. Tu peux nous...
Donc moi je vais proposer de lire un petit extrait, un petit poème que j'aime bien, un petit texte d'Amalia Rodriguez, parce qu'elle est... Elle les écrivait aussi, hein, ces textes. Donc, je vais essayer
c'était
de
aussi
faire
une poétesse,
vite, hein.
Amalia Rodriguez.
Voilà. Je vais essayer de lire vite, puisqu'on fait signe qu'il reste 3 minutes.
Prends ton temps.
Allons-y. Elles vivent dans une rue obscure. La tristesse, l'amertume, l'angoisse et la solitude. Dans une seule chambre fermée. C'est là aussi qu'habite mon fado. Et que je tire. C'est là aussi qu'habite mon fado. Et que se tient mon cœur. Nous avons tant et tant marché, tous les trois, nous donnant le bras, la tristesse, l'amertume et moi. La nuit, un fado qui a déjà pleuré sort de cette chambre fermée et envahit la rue obscure. Nous sommes les voisins de l'ennui, un monsieur sans remède dans son obstination. Il vient jusque dans ma chambre fermée et s'assied là, à côté de moi, sans laisser entrer jamais personne. Dans cette joyeuse demeure, il n'y a de place pour rien d'autre, et personne ne pourrait encore y tenir. Seul un fado de plus peut s'y glisser, car dans cette chambre fermée, on pleure bien le fado. Voilà, c'était un texte d'Amalia Rodriguez, un texte que vous retrouverez qui sera dit par Marie-Audrey Sumno.
On va bientôt se quitter à filigrane imprécis, donc notez tout de suite dans vos agendas, donc le 18 à 21h, salle Saint-Ravi, le spectacle proposé par la compagnie Amadis, Fatoum. N'oubliez pas aussi de noter que le 1er mai, nous organisons un grand dîner républicain à l'occasion de la fête des libertés et des indépendances des pays africains d'expression portugaise. Et que, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Et oui, une expo qui est aussi en préparation, qui sera inaugurée le 5 octobre 2010. La semaine prochaine, on reviendra sur l'actualité de Casamadis et on fera une émission spéciale sur Fatoum de présentation du spectacle. Voilà, Ferdinand, merci d'avoir été avec moi ce matin, de m'avoir accompagné pour ce filigrane imprécis.
Bah, de rien.
Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Très bonne semaine lusophone à tous. Merci, au revoir.
Filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. A Divergência FM.
Filigrana imprecis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM.